comme les transporteurs professionnels, assurez vos marchandises chez Suno Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Le nombre de cas d'obésité a presque triplé depuis 1975 et selon l'OMS, 13% de la population adulte est concernée par cet excès de masse grasse. Déséquilibre entre l'apport et la dépense d'énergie, l'obésité, une maladie chronique qui a une forte incidence sur la qualité de vie, favorise l'installation d'autres troubles métaboliques comme le diabète qui impacte la santé cardiovasculaire, la mobilité et parfois la relation avec l'entourage, familial comme professionnel. Comprendre l'obésité, identifier les facteurs familiaux, les maladies ou périodes de la vie qui favorisent la prise de poids, trouver la prise en charge adaptée chez l'adulte, celles et ceux qui ont épuisé les consultations diététiques en s'investissant dans divers régimes aussi démoralisants qu'inefficaces peuvent être amenés à se tourner vers la chirurgie bariatrique. Une option qui est réservée aux individus qui ont atteint un surpoids vraiment conséquent et qui ne présentent pas de contre-indications. Cette chirurgie de l'obésité est conditionnée par une préparation et un suivi indispensable, une solution qui n'est ni simple ni miraculeuse et doit être envisagée en pleine connaissance de cause. Nous allons donc parler de la prise en charge de l'obésité aujourd'hui dans Priorité Santé, mais aussi du ressenti des personnes en surpoids et du travail d'acceptation et de transformation du regard des autres. On attend vos messages, vos questions sur notre page Facebook et à notre numéro 33 84 22 75 75. L'obésité chez l'adulte, comprendre cette maladie directement liée au mode de vie. Pour en parler en studio avec nous, le professeur Sébastien Tchernikov, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de nutrition de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, professeur en nutrition à Paris-Descartes. Vous avez signé, professeur Tchernikov, le livre « Obésité, quand et comment avoir recours à la chirurgie bariatrique » publié aux éditions Marabout. Également avec nous, Amandine Teteya, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultante en images et communication et cofondatrice de l'association Cosmo Plus, association qui depuis près de 10 ans contribue à ce que les femmes rondes retrouvent confiance en elles. Vous nous expliquerez tout à l'heure comment. Nous retrouverons en ligne du Bénin le docteur Victoire Aguet, médecin nutritionniste et enseignant-chercheur à l'Institut Régional de Santé Publique de Ouida. Et puis en fin d'émission, nous retrouvons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Regard croisé dans cette émission, l'obésité au quotidien en termes de ressenti comme en termes de prise en charge. Professeur Sébastien Tchernikov, vous le soulignez dès le début de votre livre, l'obésité n'est plus une maladie des pays riches, l'ensemble des pays du globe est maintenant concerné.
Oui, c'était pour rappeler qu'il y a eu un changement démographique très important qui s'est finalement opéré au profit d'une offre alimentaire diversifiée, permanente, et puis de changements importants de notre mode de vie. On prend la voiture, on prend l'escalator, on se déplace beaucoup plus facilement dans des transports en commun, et finalement on perd cette habitude d'utiliser notre corps pour pas mal d'activités physiques. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les différents chiffres qui nous montrent que la sédentarité, indépendamment du niveau d'activité physique, la sédentarité a augmenté. Par exemple, le temps passé devant les écrans, qui est un très bon critère. Et ce temps passé devant les écrans, il est important chez les adultes, mais aussi chez les enfants et les adolescents.
Alors, il y a ces facteurs, on va dire, d'habitude de vie. Il y a également ce que l'on mange. Est-ce que vous diriez que pour certains, on mange trop, mais plutôt, surtout, qu'on mange mal ?
Alors, ce qui est très important de garder à l'esprit, c'est qu'on a tous en nous une balance énergétique. Et cette balance énergétique, qui est finalement le résultat des entrées et des sorties, donc les apports alimentaires d'un côté, le niveau d'activité physique de l'autre, elle est individuelle. Et donc notre niveau et donc nos besoins énergétiques, ils sont variables d'une personne à l'autre. Il suffit de manger un petit bout de pain en plus par jour ou quelques cuillères de féculents en plus par jour. Ça peut être du riz, de la semoule, peu importe. Et même si ça nous paraît anodin, à l'échelle d'une année, à l'échelle de 2 ans, 3 ans, on va prendre des kilos sans s'en apercevoir et pour certaines personnes, sans avoir modifié le niveau d'activité physique. Donc, c'est un des points, j'imagine, qu'on va aborder dans cette émission, c'est que finalement, les parcours qui amènent une personne à prendre du poids peuvent être extrêmement variables d'une personne à l'autre. Ça peut être des phénomènes très progressifs, sans qu'on s'en aperçoive, ou ça peut être des phénomènes un peu plus brutaux, comme un accident sportif, une fracture, ou quelqu'un qui va être immobilisé pendant une longue période, quelqu'un qui va prendre des médicaments, et donc où on va entrer dans cette maladie chronique qu'est l'obésité par des paliers qui vont être peut-être plus brutaux, parfois successifs, mais pas aussi progressifs que dans la première situation.
Et d'autres facteurs aussi, professeur Tchernikov, qu'on range sous l'appellation d'héréditaire ou de génétique.
Alors la génétique, c'est un sujet compliqué. Globalement, quand même, le message à retenir, la génétique peut toucher ou aggraver une situation d'obésité, mais il existe quelques situations rares qu'on appelle des obésités monogéniques, qui sont des gens qui prennent du poids de façon très 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 importante dans l'enfance, dans les premières années de vie, et qui restent des situations rares et qui vont impliquer un gène. Mais la plupart du temps, ce qui est vraiment le plus fréquent, c'est des gènes de prédisposition. C'est-à-dire que si vous mettez une personne qui a ces gènes de prédisposition dans un environnement où finalement il fait beaucoup d'activités physiques et où il contrôle son alimentation de manière tout à fait adaptée, il ne va pas forcément prendre du poids. C'est ce qu'on appelle finalement un facteur de risque.
Amandine Tetteya, est-ce qu'aujourd'hui, le surpoids est un problème pour vous ?
Aujourd'hui, non.
Mais vous avez une histoire avec, j'imagine, ce poids. Comment les choses ont-elles évolué ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes ronde et bien dans votre peau, alors qu'il y a quelques années encore, c'était un combat pour essayer de perdre ces kilos ?
Alors, moi, c'est vrai que j'ai une histoire au même titre que tous. Et j'ai dû passer par différentes phases, notamment d'introspection, de recherche, parce que à un moment donné, les régimes sans cesse, avec l'effet yo-yo qu'on connaît aujourd'hui et qui est parfaitement identifié, tout ça m'a amené à dire stop et à voir mon corps autrement, à le gérer autrement.
Alors, on va avoir l'occasion d'aborder l'impact de l'obésité en termes de santé, bien sûr. Mais Amandine Tetteya, cette différence par rapport à ce qui est déterminé comme la norme, d'ailleurs, en fonction des pays, en fonction des régions, ça change considérablement. Ce surpoids a des conséquences très importantes en termes relationnels, en termes d'estime de soi. C'est un domaine qui vous occupe au sein de votre association depuis près de 10 ans. Cette association s'appelle Cosmo Plus. Alors, pourquoi avoir choisi ce nom ?
Alors, Cosmo Plus, si on doit le scinder donc en deux mots, Cosmo, c'était pour l'aspect cosmopolitain, parce que j'ai cofondé l'association avec ma sœur, et on s'est toujours estimé être citoyenne du monde. On ne s'est pas clivé à quelque moment que ce soit, et pour la partie « plus », entre guillemets, c'est très simplement un petit rappel sympathique face à celle que nous sommes. Nous avons des rondeurs en plus, et peut-être des choses insoupçonnées supplémentaires, où il faut vraiment nous contacter et nous connaître pour le savoir.
Alors, on l'a compris avec ces premiers mots, vous assumez, vous transmettez ce message. Comment justement on fait pour dépasser ces complexes, Amandine Tetteya, quand on est plus ?
Alors, quand on est plus, il faut déjà, comme je vous le disais à l'instant, entrer en introspection. C'est qu'à un moment donné, avec tous ces allers-retours et ces successions de prise de poids, de perte de poids, j'ai dû me demander qui j'étais. J'ai dit stop, et ensuite j'ai dû me dire, mais alors qu'est-ce que j'ai de plus en dehors de mon poids? Je vois bien que j'ai des capacités, je vois bien que j'ai de la valeur ajoutée, on me le dit, mais je suis la seule à ne pas m'en soucier.
Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne se perçoit plus que, je m'excuse, j'utilise les mots qui me viennent en tête, et ça, je vais pas faire du politiquement correct, on ne se perçoit plus parfois que comme grosse et plus comme quelqu'un.
C'est bien ça.
C'est pourquoi c'est ce qu'on ressent, c'est les messages que nous transmettent les autres, ou c'est quelque chose qui se construit en fait démoralisé au jour le jour par des remarques, par des regards ou par des choses dans la vie de tous les jours, un siège trop étroit, quelqu'un qui vous lance un regard parce que dans le métro vous prenez un peu trop de place.
C'est ça, il y a quand même un certain poids sociétal qui nous rappelle à tout moment, dans différents endroits, y compris dans le socle qui peut être amical ou familial, qu'on prend de la place. Et à un moment donné, on devient la femme trop. C'est ce, en tous les cas ce que moi j'ai mémorisé pendant plusieurs années. Mais cette femme trop, j'ai appris à l'apprivoiser et je me rends compte que je ne suis pas que trop grosse. Je suis peut-être trop émotive, très sensible, très amicale ou trop amicale, peu importe. Et j'ai finalement balancé la bascule vers du positif en tous les cas.
Alors surpoids, obésité, on va revenir à de la mathématique hein, avec ce fameux indice de masse corporelle qu'on retrouve dans tous les articles, toute la littérature qui concerne justement cette question du surpoids. Indicateur pour un diagnostic, professeur Sébastien Tchernikov, comment on calcule cet IMC ?
Donc l'indice de masse corporelle, c'est un indicateur, hein. Il doit être interprété, utilisé bien sûr avec précaution parce que, comme l'a rappelé Amandine, l'obésité est une maladie qui se voit, à l'inverse d'autres maladies qui ne se voient pas comme l'hypertension artérielle ou le diabète par exemple, en tout cas pas dans son stade initial. Et donc forcément l'environnement, les gens qu'on côtoie, les collègues, les gens dans la rue vont avoir un jugement de valeur sur cette maladie qu'est l'obésité. Et c'est là où c'est à la fois un sujet passionnant, ça devient un sujet de société et c'est un sujet médical aussi, mais c'est avant tout un sujet individuel. Si une personne se sent bien dans son corps en étant en situation d'obésité, elle n'a pas forcément besoin de consulter un médecin, elle n'a pas forcément besoin d'être soignée, c'est à elle de décider si elle veut recourir aux soins. Ensuite, il y a le point de vue du médecin qui est de dire... voilà ce qu'on sait aujourd'hui sur les relations entre cet excès de poids et les maladies associées à l'obésité. On va en reparler, le cancer, l'hypertension, etc. Donc je trouve que c'est vraiment important d'aborder ce sujet-là parce que le fait que cette maladie chronique se voit forcément implique beaucoup de choses dans la relation que nos patients peuvent avoir avec leur environnement.
Comme toutes les maladies de l'apparence. On revient quand même à l'IMC.
Alors, on revient à l'IMC. Donc l'IMC, c'est un critère, on l'a dit, qui se calcule comme le poids en kilos sur la taille en mètres au carré. Et donc chacun des auditeurs avec sa petite calculette, sauf s'il est très fort en calcul mental, ce qui n'est pas mon cas, pourra calculer son indice de masse corporelle.
Il y a même des calculateurs automatiques sur Internet.
Voilà, il y a des calculateurs automatiques. Attention aux sites Internet qui sont associés à des publicités, malgré tout. Je tiens quand même à le dire en passant.
Si vous êtes à tel indice, faites ci, faites ça. Pas du tout. Hein. On a l'indice, on arrête là.
Voilà, ou qui vous amène vers des sites marchands. Donc le principe de cet indice de masse corporelle, ça vous permet en fait de vous classer dans une zone à risque vis-à-vis des maladies associées à l'obésité. D'ailleurs, il faut garder en tête que cet IMC, il a été calculé comme ça, initialement utilisé par les assureurs américains pour définir le niveau de risque des polices d'assurance. Donc c'est bien parce que l'indice de masse corporelle est associé à un risque qu'on l'utilise dans la pratique courante médicale.
Alors on va aborder tout à l'heure bien sûr le sujet central de votre ouvrage, professeur Tchernikov, chirurgie bariatrique, mais on a évoqué très rapidement ces fameux régimes, ces restrictions alimentaires. Expliquez-nous pourquoi ça ne fonctionne pas dans l'immense majorité des cas.
Alors un message très simple à faire passer, régime égale prise de poids. Donc tous les auditeurs qui s'interrogent...
Mais apparemment les magazines féminins n'ont pas compris hein.
Oui, mais les objectifs sont peut-être pas les mêmes que les messages diffusés par les médecins. Et on voit bien d'ailleurs que la plupart des problématiques posées autour de ces régimes sont la plupart du temps appliquées par des personnes qui ont très peu de poids à perdre, voire pas de poids à perdre, alors que finalement, les vraies pertes de poids qui sont nécessaires pour des personnes en situation d'obésité sévère, eh bien ces régimes-là ont été des sources à la fois de frustration et des sources de troubles du comportement alimentaire.
Alors le recours à la chirurgie bariatrique, on y vient, professeur Tchernikov. Comment savoir, lorsque l'on est obèse, hein, on le dit bien sûr, quand on est en surpoids, c'est la première des conditions, si cette option peut convenir ?
Alors la chirurgie de l'obésité, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre chez Marabout sur la chirurgie de l'obésité, c'était d'informer les patients. C'était vraiment ma raison première parce que en fait, cette chirurgie, elle est d'une grande efficacité, mais elle est d'une grande efficacité quand les patients ont bien compris qu'ils s'engageaient dans un parcours de soins et n'allaient pas vers une situation très ponctuelle qui était le geste chirurgical lui-même. Les patients doivent aller dans un parcours de soins pour être évalués avant la chirurgie, dans le cadre d'une prise en charge qui est vraiment pluridisciplinaire, avec des psychologues ou des psychiatres, des diététiciens, des enseignants en activité physique adaptée, et bien sûr un médecin nutritionniste. Durant ce parcours, ils vont rencontrer le chirurgien de l'obésité, qui est souvent un chirurgien digestif. Et ensuite, une fois que la décision qui doit être prise de manière pluridisciplinaire, une fois que cette décision de chirurgie est prise, les patients continuent leur parcours de soins. Et il faut bien avoir en tête que ce parcours de soins va être à vie, puisque après la chirurgie, les patients vont devoir être suivis, continuer à surveiller leur poids, prendre des vitamines, faire de l'activité physique. Et donc l'idée, c'est de les aider à passer un cap vers une autre situation, vers un autre état de santé qui va leur aller mieux qu'avant.
En tout cas, parce que opéré ou non, il reste malade chronique et il continue d'être traité pour cette maladie chronique.
Voilà, ce que disent les publications scientifiques, c'est que environ 50% des patients opérés restent en situation d'obésité, parce qu'on va aller opérer des patients qui ont vraiment une obésité importante. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'informer les patients, et c'était l'objectif du livre, c'était de les informer pour savoir toutes les bonnes choses qui peuvent arriver avec cette chirurgie, parce qu'on va opérer, on va faire opérer des patients qui en ont vraiment besoin, parce qu'ils sont dans une situation médicale qui requiert cet accès à la chirurgie. Mais il faut aussi être informé des complications éventuelles et de tout l'enjeu qui va finalement arriver après la chirurgie, c'est-à-dire ce suivi à vie.
Alors, on ne va pas décrire les différentes techniques, c'est vraiment compliqué. Je vous demanderai simplement, professeur Tchernikov, aujourd'hui en France, c'est quoi la technique de chirurgie ? Parce qu'elles sont nombreuses, assez différentes ce qui est fait justement sur cet appareil digestif et puis dans les conséquences ensuite. Quelle est aujourd'hui la plus fréquente en France ?
Alors je peux essayer de décrire en deux mots les différentes chirurgies, parce qu'on peut les grouper, on peut les diviser en deux grands groupes. En fait, il y a des chirurgies qui cherchent à limiter la quantité d'aliments qu'on mange, c'est ce qu'on appelle des chirurgies restrictives. Alors le plus connu, c'est l'anneau gastrique ajustable. Et puis la deuxième chirurgie qui est actuellement la plus pratiquée en France, qui est la sleeve gastrectomie. Pourquoi ça s'appelle sleeve ? Parce qu'on réalise une sorte de manchon, une sorte de tube, donc on va enlever définitivement les deux tiers de l'estomac. Et puis, il y a des chirurgies qu'on appelle malabsorptives, comme le bypass, par exemple.
Donc, avec une dérivation, là.
Voilà. Donc là, on va diminuer la taille de l'estomac et on va créer une dérivation de l'intestin pour diminuer l'absorption des aliments.
Amandine Tétéia, avant de donner la parole à nos auditeurs, quel regard portez-vous sur cette chirurgie ?
Alors, j'ai un regard, on va dire, neutre. Voire bienveillant. Je vous avoue qu'au sein de l'association, on accueille tout type de femmes, des femmes qui sont déjà passées par la chirurgie, entre autres, ou qui sont passées dans la chirurgie par la chirurgie bariatrique, et je pose un regard, disons, bienveillant.
Et leur témoignage, c'est quoi ? La plupart d'entre elles sont satisfaites de l'après, ou elles évoquent quand même les difficultés sur cette prise en charge, tout ce que ça implique dans le quotidien, ou finalement, on va dire, le rapport entre ce que la chirurgie leur a apporté, leur ressenti antérieur, c'est quelque chose quand même qui reste positif.
Alors, ça reste globalement positif. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a des adhérentes fidèles, qu'on suit sur plusieurs années. Donc, il y a différentes phases, hein, docteur Tchernikov, je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y a une phase qu'on appelle lune de miel, dont elles m'ont parlé. Donc, je les vois au début, je les vois en cours, et voire même sur quatre années plus tard. Donc, il y a aussi, non pas des insatisfactions, simplement, on peut constater après qu'elles sont lucide aussi,
un retour
face
à la réalité.
Ça, exactement.
Peut-être après avoir surestimé, parce que ce que vous dites aussi dans votre livre, il y a ce côté où vous expliquez de façon très concrète, hein, un peu à la manière d'un guide, ce qui se passe, et puis un petit peu une mise en garde pour tous ceux qui considéraient que c'est vraiment la solution miracle. Ce n'est pas le cas, c'est une opération, c'est de la chirurgie, c'est de la médecine.
C'est un geste très efficace, mais qui doit rester, et ça peut peut-être parfois choquer, ça doit rester le dernier recours. C'est-à-dire qu'il faut aller vers cette chirurgie quand on a épuisé l'ensemble des prises en charge pluridisciplinaire, et certains patients vont avoir besoin d'augmenter leur niveau d'activité physique, alors que leur enquête alimentaire faite avec un diététicien est tout à fait adaptée, ne pose pas de problème. Certains patients ont un niveau d'activité physique élevé mais ont des troubles psychologiques, d'autres ont des problèmes alimentaires mais sont actifs. Donc vous voyez qu'il faut vraiment essayer de sortir des généralités. Et je voudrais insister aussi sur ce qu'a dit Amandine, les associations de patients patients ont un rôle très important. La vôtre a un rôle important. Il y a aussi un collectif national des associations de patients obèses, le CNAO, qui peut être contacté par Internet. Je crois que vous avez aussi des liens. Et donc, c'est très important pour les patients parce que, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand ils viennent en consultation, certains sont perdus. Certains ont entendu plein de messages contradictoires.
Sortir de l'isolement.
Voilà, sortir de l'isolement, aller vers d'autres patients. Et les associations de patients jouent un rôle très important à cet égard.
Alors, on va prendre tout de suite nos auditeurs en ligne.
Priorité santé sur RFI.
Premier auditeur, il est en ligne de Mauritanie, de Nouakchott, et c'est Ricardo. Bonjour Ricardo.
Bonjour madame.
On vous écoute, le professeur Tchernikov est à votre écoute, allez-y.
Oh, ok, bonjour tout le monde.
Oui, allez-y.
Oui, c'est Ricardo, oui. Moi, mon problème, c'est dû à mon poids.
Mm-hmm.
Je faisais 70 kilos avant, il y a de là, cela 6 ans.
Mm-hmm.
Maintenant, j'en fais 100.
Mm-hmm.
Avant, je faisais beaucoup d'activités sportives, mais compte tenu du travail, j'ai plus assez de temps pour mes essais. Du coup, j'ai adopté un régime, mais je constate que le régime, ça ne marche pas. Donc, j'ai toujours le poids, je ne maigris pas, et pourtant, je fais tout pour maigrir.
Vous dites,
je me l'ai demandé.
Ricardo, excusez-moi, vous dites je fais un régime ou des régimes, ça consiste en quoi précisément ?
J'arrête de manger complètement toute la journée.
Ça s'appelle pas un régime, ça s'appelle un jeûne, ça. Hein?
Ah d'accord, on peut appeler ça un jeûne. Donc la nuit, je prends juste un petit fruit ou bien juste un petit truc pour dormir toute la semaine. Et dès que je repars, moi le dimanche, j'essaie de manger convenablement, mais ainsi de suite, ça n'arrange rien.
Mais vous vous privez de manger toute la semaine ? Vous n'avez pas faim ?
Si, si. J'ai faim, mais je fais souffrir mon corps pour perdre du poids.
Mais vous ne faites pas souffrir que votre corps, vous faites souffrir vous aussi, Ricardo. Je vais tout de suite donner la parole au professeur Tchernikov.
Bonjour. Donc, moi, ce que je relève dans ce que vous venez de décrire, c'est que finalement, vous mettez en avance un besoin de souffrance pour réussir à aller mieux. Donc c'est un petit peu contradictoire. Ça c'est le premier élément. Vous voyez, vous essayez de vous faire souffrir alors qu'en fait vous essayez d'aller vers une meilleure situation. Et ce que vous décrivez en fait, c'est ce que font pas mal de personnes qui essaient de perdre du poids, c'est que au lieu d'essayer de rééquilibrer l'alimentation, vous allez chercher à vous priver. Et donc, votre cerveau, qu'est-ce qu'il va enregistrer ? Il va enregistrer ce message de privation. C'est ce qu'on appelle la restriction cognitive, c'est-à-dire que volontairement, vous vous empêchez de manger. Le problème, c'est que le cerveau, il est un peu plus malin que le corps. Et il va réussir, il va gagner en fait le combat. C'est-à-dire qu'il y a des moments, probablement, vous vous en rendez pas compte. C'est quelque chose d'un peu inconscient. Vous allez manger des plus grosses quantités que ce que vous voudriez. Ou alors vous allez manger des petits grignotages à des moments sans peut-être même vous en rendre compte. Et au final, à la fin de la semaine, alors que vous croyez vous être privé, eh bien à la fin de la semaine, vous avez mangé plus de calories. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous voulez faire quelque chose de très, très simple et très pratique, vous allez prendre une feuille et vous allez noter tout ce que vous mangez pendant une semaine. Matin, midi, soir, entre les repas. Vous gardez la feuille avec vous et vous allez essayer d'être vraiment honnête avec vous quand vous écrivez sur cette feuille. Et à la fin de la semaine, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, vous avez mangé à des moments qui étaient des moments absolument inadaptés ou des moments qui vous semblaient vides. Mais en fait, vous avez eu des prises alimentaires. Donc, ce qui est bien démontré, c'est que quand on se prive et quand on fait ces périodes de jeûne, en réalité, il y a des moments où le corps se venge et il se venge contre vous.
Non, Ricardo, vous disiez aussi que vous ne faites plus d'activité sportive. Vous rendez au travail comment ? À pied ? En transport en commun ?
Non, en voiture.
En voiture. Et ce travail, il est très éloigné de votre domicile ?
Oui, un peu éloigné.
Un peu éloigné. Mais vous ne pouvez pas garer la voiture un petit peu plus tôt et terminer le chemin à pied ?
Non, c'est un peu loin.
Mais justement, vous garez la voiture un petit peu plus tôt, quand vous jugez que c'est pas trop loin, et vous terminez le chemin à pied. Si c'est bon pour votre santé, c'est forcément bon pour vous.
D'accord, il n'y a pas de problème.
Très bonne journée. Très bonne journée, Ricardo, à Nouakchott. On va partir pour le Burkina, pour Ouagadougou. Je vais y arriver. On retrouve Joyce. Bonjour, Joyce.
Bonjour, Caroline.
On vous écoute, allez-y.
Moi, j'ai 24 ans, je mesure 1m64 et je fais 84 kilos.
Mm-hmm.
J'ai commencé à prendre du poids après une contraception que j'ai arrêtée. J'ai essayé de perdre du poids du mieux que je pouvais, mais je ne suis pas arrivée.
Mm-hmm.
Et du coup, il y a 6 mois, je suis allée voir un diététicien pour qu'il m'aide un peu. Et du coup, il m'a donné... Un régime que je devais faire, et ce régime consistait à ne pas manger le soir, de boire juste du thé avec du citron, le matin un peu de pain avec du café et du citron, et de privilégier les légumes dans les aliments. Et du coup, depuis que je fais ça, ben, ça va pas trop, vu que j'ai des ulcères. Donc, j'ai arrêté le citron, mais je continue le régime qu'il m'a conseillé.
Excusez cette question, Joyce, excusez-moi. Ce diététicien, vous l'avez trouvé comment?
Grâce à un ami, il me l'a conseillé.
Il travaille dans le milieu médical ou il travaille de façon autonome chez lui, comme ça?
Non, c'est dans une clinique, en fait.
Dans une clinique, d'accord. Ben, je vais donner tout de suite la parole au professeur Tchernikov.
Bonjour Joyce, donc merci de votre question. Alors vous avez dit une chose intéressante, c'est que vous avez commencé à prendre du poids après la contraception. Donc effectivement, ça dépend un petit peu des pilules. Certaines femmes en consultation décrivent des prises de poids de quelques kilos. Ça peut être 1, 2, 3 kilos, et chez certaines femmes beaucoup plus. Peut-être que c'est ce qui vous est arrivé. Et puis vous décrivez une deuxième chose aussi, c'est que cette prise de poids, elle a été peut-être pas forcément uniforme, ça s'est localisé à certaines parties du corps. C'est ce qu'on appelle la répartition de la graisse ou la répartition du tissu adipeux. Et donc, un peu comme on l'a entendu avec Ricardo, vous avez été orienté vers un diététicien, mais ce diététicien, il vous a conseillé quelque chose d'un peu, on va dire, un petit peu magique, parce que finalement, je vois pas pourquoi le citron aurait un quelconque impact sur le reste de vos apports alimentaires. Donc, c'est plutôt des choses un petit peu de l'ordre de l'irrationnel. En revanche, le citron, c'est bourré de vitamine C, donc c'est très bien. Vous pouvez continuer à l'utiliser dans votre alimentation, c'est super. Mais il faut pas substituer vos repas par du citron. Si vous faites peut-être autour de 80 kilos ou 84, 85 kilos, vous pouvez perdre 5%, 10% de votre poids, c'est-à-dire 4 à 8 kilos, et ça vous mettra en dehors d'une zone à risque, par exemple, pour devenir diabétique. Donc, vous voyez que la perte de poids vers laquelle vous pourriez vous diriger dans un premier temps, c'est de perdre quelques kilos dans l'année, et pas forcément une perte de poids très importante.
Mais pas en sautant un repas.
Surtout pas en sautant des repas, et surtout pas en vous privant. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'essayer de faire des repas équilibrés, dans lesquels vous allez avoir une proportion des différents groupes d'aliments, hein, donc d'un côté des féculents, de l'autre viande, poisson ou œuf, et de l'autre des légumes. Vous pouvez répartir de façon à peu près équilibrée dans l'assiette, un tiers pour chacun des groupes d'aliments, pour vous donner une sorte d'ordre de grandeur. Et en faisant ça, et en reprenant un petit peu d'activité physique, vous allez réussir sans difficulté à perdre du poids. Mais surtout, n'essayez pas de faire des régimes, parce que c'est ça qui va vous faire prendre du poids.
Joyce, vous êtes gourmande ?
Un peu.
Un peu
par-ci, oui.
Et vous craquez sur quoi ? Sur le sucré, sur le salé ?
Sucré.
Sucré. Oui. Donc peut-être vous orienter vers des choses sucrées qui vous font plaisir, mais qui apportent moins de calories, c'est possible ? Vers quel type d'aliments on peut conseiller Joyce d'aller, professeur Tchernikov, si elle aime le sucré ? Certains fruits qui feront moins grossir, je ne sais pas, c'est peut-être des idées reçues ?
Je crois que c'est une question de quantité. Mm-hmm. Vous voyez, certains patients viennent nous voir en disant « je mange très sainement, je mange 10 fruits par jour ». Ça pose quand même un problème,
beaucoup,
parce
ouais.
que dans les fruits, il y a du sucre naturel, hein, qu'on appelle le fructose. Et donc, c'est pour ça que c'est une question d'équilibre. Et je pense qu'il y a une phase d'auto-évaluation qui peut se faire, comme on l'a conseillé à Ricardo, en essayant déjà d'avoir une façon objective de décrire sur une semaine ce qu'on mange. Et on peut avoir des surprises quand même.
C'est pratique aussi le smartphone si on n'a pas de papier sous la main toute la journée. On fait sa petite liste, comme on ferait sa liste de courses. Qu'est-ce que j'ai mangé lundi, mardi, mercredi ? Comme ça, on peut vraiment avoir toujours ça sous la main.
Voilà, ça peut être un peu laborieux, mais si on aime la technologie, pourquoi pas ?
Je pense que beaucoup de nos auditeurs aiment la technologie. Très bonne journée, Joyce, au Burkina. Et on poursuit, on rejoint la République démocratique du Congo, Kinshasa, où l'on retrouve Guilin. Bonjour, Guilin.
Bonjour Caroline, bonjour aux auditeurs de la RFI.
Le professeur Tchernikov est à votre écoute, allez-y.
Oui, j'ai 32 ans, j'ai remarqué que ces 4 dernières années, j'ai pris 20 kilos de plus. C'est ce qui fait que maintenant, j'en ai 86. Et pourtant, je mesure 1m76. Et beaucoup plus surtout après avoir subi une intervention chirurgicale à peine une année et demie. Et pourtant, mon régime alimentaire n'a pas changé, ainsi que mon mode de vie, puisque je joue au football, je fais la marche, tout juste pour réguler. Par exemple, là, je viens auprès de vous poser cette question pour savoir comment faire pour stopper ou arrêter cette prise du poids qui est continuelle et inquiétante. C'est un peu ça, quoi.
Guilin, vous êtes resté alité un certain temps après vos opérations ?
Oui.
Combien de temps ?
21 jours alité, parce que ça fait compliqué un tout petit peu. 21 jours alité.
Vous avez eu des complications après votre opération, donc je donne tout de suite la parole au professeur Tchernikov.
Bonjour. Donc, si j'ai bien compris, vous avez pris du poids, mais en fait, peut-être que votre prise de poids, elle s'est effectuée, comme l'a souligné Caroline, très précocement, au moment où vous avez été sédentaire.
Immobilisé alors que vous étiez un grand sportif.
Exactement, puisque ça a compliqué, j'ai fait 21 jours à l'hôpital, tout juste après, pendant que je récupérais, j'étais convalescent, je prenais du poids. Et maintenant j'en ai 86, c'est vraiment inquiétant, professeur.
Oui, alors déjà, inquiétant, non, c'est pas inquiétant, vous avez pris du poids et au contraire, c'est bien, vous vous préoccupez de ce sujet maintenant alors que vous êtes en surpoids, vous n'êtes pas encore entré dans la zone d'obésité, donc c'est le bon moment pour vous occuper de ce problème de poids. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vous voyez, la prise de poids, elle se fait soit par palier, soit progressivement au cours de la vie. Et vous avez eu cet effet de palier, parce que en fait, même si vous nous dites que vous êtes maintenant très sportif, vous avez été immobilisé, et ensuite vous avez été immobilisé probablement en convalescence chez vous pendant plusieurs semaines. Et donc la prise de poids, elle s'est faite à ce moment-là, et vous l'avez stoppée grâce à l'activité physique. Donc peut-être que là, il faut agir un peu plus sur l'alimentation, et revoir peut-être par exemple vos apports en matière grasse ajoutée. Est-ce que vous prenez beaucoup de plats en sauce, beaucoup de plats qui sont cuits à l'arachide? Est-ce que vous vous resservez pendant les repas? Essayez d'observer un petit peu plus votre comportement, sans que ça devienne une obsession, mais observez un petit peu la façon dont vous vous comportez au moment des repas. Une astuce, ça peut être de ne pas mettre les plats à table, mais les garder dans la cuisine et vous servir juste une assiette et voir si après cette assiette, ça vous suffit, par exemple.
Voilà, Guilin, pour ses conseils.
Ah oui.
C'est des bons conseils, à ce qu'on entend. Et oui, et continuez le sport. Très bonne journée à Kinshasa. On prend un dernier auditeur, on est un petit peu pressé par le temps. On prend un dernier auditeur. C'est à Conakry, en Guinée, qu'on rejoint Alioune. Bonjour, Alioune.
Bonjour RFI.
On vous écoute, allez-y.
Ces dernières années-là, je prends du poids incroyablement. J'ai 1m80. Je pèse 115, 117. C'est ça qu'actuellement, j'ai même peur maintenant de prendre mon poids pour ne pas être trop stressé. J'ai remarqué que c'est un caractère inné dans notre famille. La maman, le papa, tout le monde. Le problème est que j'ai suivi tellement de forums, je suis parti sur YouTube pour avoir des remèdes miracles, mais en fait, ça ne marche pas. Quand je ne grossis, c'est lorsque je fais des régimes. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai marre. Franchement, je ne sais pas. Ça me stresse.
Alioune, vous habitez encore à la maison? C'est toujours votre maman qui fait la cuisine?
Non, je fais la cuisine. Je ne mange pas des aliments gras.
Vous faites attention à ce que vous mangez?
Oui, je ne mange seulement que du riz pour éviter, mais en fait, c'est-à-dire que c'est dans mes gènes, quoi, je ne sais pas pourquoi.
Vous mangez du riz en sauce ou du riz nature?
Non, du riz avec du massé, la sauce, oui.
Avec la sauce, avec une bonne petite sauce bien préparée, bien épicée?
Bien préparée, oui, bien épicée.
Et en belle quantité aussi?
Oui. J'évite tout ce qui est gras, mais le fait, je grossis en marchant même, j'ai souvent des petites bleus au niveau des cuisses, du fait que ça se frotte là, Ma petite sœur aussi, elle-même, elle ne peut même pas se courber pour par exemple, porter ses chaussures. Voyez-vous?
Oui, bon. Ouais, j'imagine Alioune. Alors, Alioune qui a déjà des effets physiques hein, de ce surpoids, ça le gêne dans sa mobilité, et puis qui pointe que dans sa famille, eh bien, c'est un petit peu tout le monde qui est dans le même bateau.
Bah, ce que vous décrivez, bonjour Alioune, ce que vous décrivez, c'est que finalement, il y a une forme d'hérédité dans votre famille. Vous l'appelez hérédité, mais peut-être que tout simplement, la façon dont votre famille s'alimente, c'est une façon qui est identique à vous tous parce que vous avez une culture familiale qui est importante. Alors c'est pas forcément de la génétique, c'est peut-être juste du comportement et peut-être que si vous prenez du poids, que votre sœur prend du poids, c'est peut-être lié au fait que vous vous alimentez de la même façon. Donc, vous voyez, il faut essayer peut-être de pas mettre de la génétique partout à des endroits où il y en a pas. En revanche, ce que vous avez décrit, c'est que vous êtes un petit peu dans la même situation que Guylain ou Joyce. Vous essayez de vous priver en sélectionnant un seul groupe d'aliments. Et moi, je ferais vraiment exactement l'inverse. Je chercherais plutôt à diversifier mon alimentation, à aller vers une alimentation qui est plus colorée pour avoir ce qu'on appelle une densité nutritionnelle plus importante, c'est-à-dire plus de vitamines, plus de minéraux, mais une densité calorique moins importante. Donc vous pouvez très bien augmenter le volume de vos repas, ne plus avoir faim après le repas, alors que vous allez manger des grandes quantités, mais par contre, il n'y a pas beaucoup de calories dans votre alimentation parce que vous avez introduit des crudités, parce que vous avez introduit des légumes et donc beaucoup de fibres. Le volume et donc la quantité d'eau dans vos repas va être plus importante. Vous allez vous sentir rassasié, vous n'allez pas avoir envie de manger entre les repas et vous allez vous sentir moins frustré. C'est ça qui va vous aider à perdre du poids.
Opération diversification à Lyon pour vous, hein?
D'accord.
Très bonne journée à Conakry. Ce qu'on perçoit en tout cas avec ce témoignage, professeur Tchernikov, c'est que ce surpoids, il a généré chez Alioune une forme de stress, il impacte sa mobilité. C'est donc l'occasion aussi de rappeler tout ce que l'obésité ou le surpoids peuvent engendrer en termes d'impact sanitaire. C'est très important pour justement la prévention.
Oui, ça c'est un point important et qui est aussi décrit dans le livre, c'est que finalement, il y a des complications associées à l'obésité. Et ces complications qui augmentent dans le monde entier changent aussi la façon, ça peut aussi intéresser les auditeurs, changent aussi la façon dont les différentes spécialités médicales travaillent, puisque pour vous donner un exemple, les spécialistes du foie, ce qu'on appelle les hépatologues, ont vu changer les types de patients qu'ils voyaient en consultation parce que la fréquence de l'obésité a augmenté. Et on voit par exemple de plus en plus de ce qu'on appelle la stéatohépatite non alcoolique, la NASH, qui est lié au fait que il y a de la masse grasse qui s'accumule dans le foie et ça engendre des perturbations qui peuvent à terme aboutir à exactement comme une cirrhose qu'on peut voir avec l'alcool ou qu'on peut voir avec des virus comme l'hépatite, l'hépatite B, l'hépatite C. Et donc le fait que l'obésité se développe un peu partout dans le monde augmente ce risque notamment de maladie du foie. Donc
on le voit aussi sur le diabète avec des enfants de plus en plus jeunes qui développent un diabète de type 2 qui était réservé avant aux adultes.
Exactement, et d'ailleurs ces deux maladies, la maladie du foie et le diabète de type 2 sont très intriquées. On voit aussi se développer des cas de cancer qui peuvent être liés à l'obésité et puis bien sûr des maladies cardiovasculaires, ce qu'on connaît un petit peu mieux.
Amandine Tetteya, est-ce qu'aujourd'hui votre poids, votre surpoids implique des problèmes de santé particuliers ?
Alors j'ai la chance de ne pas avoir de problème, de ne pas avoir eu à signaler de problème par le passé, malgré deux grossesses et une vie assez intense.
Et le regard des médecins, comment sont-ils avec vous ? Peut-être que vous avez choisi justement le médecin aussi capable de vous accepter tel que vous êtes.
Alors, hasard ou non, j'ai été suivie par une nutritionniste du nom de Dr Clémente. Alors, et pour le coup, elle portait très bien son nom. Parce que elle a su trouver les mots qui ont fait que je me suis sentie à l'aise dans son cabinet, ce qui n'a pas toujours été le cas.
On va partir tout de suite pour le Bénin.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Victoire Aguet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste, enseignant-chercheur à l'Institut Régional de Santé Publique de Ouida. Docteur Aguet, est-ce que des enquêtes ont été menées sur l'importance de l'obésité au Bénin?
Oui. La première a été faite au niveau national en 2008 et la seconde en 2015. Et actuellement, on a constaté que 23% de la population adulte âgée de 18 à 69 ans est en surpoids et 7% sont obèses. Et la proportion est vraiment plus élevée chez les femmes, 27%.
Et quelle est la perception de ce surpoids chez vous au Bénin, docteur Agué?
Bon, globalement, le surpoids et l'obésité abdominale ne sont pas perçus comme un état pathologique. Et l'obésité ne devient vraiment préoccupante que lorsqu'elle est morbide ou lorsqu'elle est associée à des complications.
Ça veut dire que l'image, ça veut dire que la perception sociale, eh bien, quand on est gros au Bénin, finalement, c'est pas vraiment un problème pour soi ou l'entourage.
Exactement.
Est-ce que quelque chose dans l'alimentation des Béninois aujourd'hui contribue plus qu'hier à ce déséquilibre alimentaire, docteur Victoire Agué?
Oui. Oui, bon, bien sûr, il y a certaines habitudes alimentaires, notamment certaines sauces qui sont très huileuses, donc riches en gras. Mais il faut dire aussi que de plus en plus, les gens consomment des aliments, disons, industrialisés, riches en gras, comme les saucisses. D'une façon générale, les saucisses, certaines viandes importées qui sont très grasses et certains poulets importés qui sont très gras aussi.
Alors vous, quand vous êtes face à une personne en surpoids qui vient en consultation, quel type de prise en charge est-ce que vous proposez, docteur Agué?
Bon, la première chose, nous évaluons son état nutritionnel en calculant son IMC. Nous recherchons les complications médicales éventuelles avant d'aborder la prise en charge diététique qui est essentiellement basée sur l'évaluation de son régime alimentaire pour identifier les insuffisances. Et ensuite, nous lui donnons des conseils en insistant sur la consommation des légumes, parce que les légumes, notamment les légumes crus dans nos habitudes alimentaires, ne figurent pas tellement. Nous insistons aussi sur l'amélioration du niveau d'activité physique. Nous sommes confrontés actuellement dans nos villes au phénomène des émigrants, c'est-à-dire des taximotos, qui réduisent énormément la marche, les efforts de marche en milieu urbain et de plus en plus en milieu rural aussi.
Alors, on a abordé au cours de l'émission l'option de la chirurgie bariatrique. Docteur Victoire Agué, est-ce que cette technique est pratiquée à Cotonou pour lutter contre l'obésité, dans la prise en charge de l'obésité?
Oui, elle n'est pas très fréquente, mais je connais actuellement une équipe composée des chirurgiens, des médecins béninois et des médecins étrangers qui pratiquent la chirurgie bariatrique, mais ça se fait rarement.
Et si vous aviez pour conclure un message à faire passer en termes de prévention?
La première chose, c'est de veiller à son IMC. Normalement, chacun doit se préoccuper de son IMC et même aussi même ceux qui n'ont pas été à l'école, quand on leur explique ce que c'est, ils peuvent l'évaluer. Ensuite, de faire attention pour garder son IMC dans les limites normales, si actuellement l'IMC est dans les limites de la normale, ou faire un effort soit pour l'augmenter si l'IMC est faible ou pour le réduire lorsque l'IMC est particulièrement élevé, c'est-à-dire lorsqu'on est obèse.
Merci beaucoup, docteur Victoire Agué, pour ces réponses. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste, enseignant, chercheur à l'Institut Régional de Santé Publique de Ouida.
RFI à Cotonou, 90 FM.
Tout à l'heure, en parlant de la chirurgie bariatrique, vous parliez du suivi, professeur Tchernikov, tout au long de la vie. Avec ce qui est important, c'est de continuer tout le temps de prendre des compléments pour compenser ce qui a été perdu après l'opération.
Oui, un message clé à faire passer aux auditeurs qui s'interrogent sur la chirurgie et qui veulent peut-être se faire opérer. Je pense qu'il y a quelques questions clés qui peuvent poser aux intervenants médecins ou chirurgiens qu'ils vont rencontrer. C'est est-ce qu'il y a une équipe qui s'occupe d'eux ou est-ce que c'est une seule personne? Est-ce qu'ils vont voir juste un chirurgien ou est-ce que le chirurgien travaille avec une équipe de médecins, diététiciens, psychologues? Ça, c'est très important. Et puis la deuxième question, c'est qui va me suivre après la chirurgie? Parce que si vous n'avez pas la réponse à cette question, c'est un problème en tant que patient de savoir qui va assurer justement ce suivi de vos carences nutritionnelles, votre éventuelle difficulté de changement de votre image corporelle et des risques liés à ces problèmes de vitamines que vous pouvez avoir après la chirurgie.
Et là, s'il nous reste très peu de temps, Amandine Tétayé, est-ce que vous avez l'impression que les regards changent sur les personnes en surpoids aujourd'hui en France ?
Alors, on sent des évolutions, ça c'est certain, parce que de plus en plus de personnes font usage des réseaux sociaux et dénoncent. Après, je pense que le premier regard à changer est le nôtre, celui qu'on a sur son corps et sur soi dans la généralité.
Travailler sur son estime de soi-même. Merci beaucoup Amandine Teteya, cofondatrice de l'association Cosmo Plus, et vous, professeur Sébastien Tchernikov. Je rappelle le titre de votre livre publié chez Marabout, Obésité, quand et comment avoir recours à la chirurgie bariatrique. L'activité physique, on en parle tout de suite dans Priorité Santé avec vous, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Alors aujourd'hui, vous avez décidé d'aborder une question très pratique. On se pose souvent cette question, quand on se fait mal, quand on a une blessure, les sportifs se demandent, est-ce qu'il vaut mieux utiliser du chaud ou du froid, ou encore, quand vaut-il mieux sortir la bouillotte pour la placer sur la zone douloureuse, ou plutôt une poche à glace?
Et oui Caroline, malheureusement, lorsqu'on reprend l'activité physique ou lorsqu'on fait du sport, la blessure, eh bien, elle ne prévient pas. Et il est mieux d'avoir sous la main, comme vous l'avez dit, ou une bouillotte pour le chaud ou une poche de glace pour le froid. On parle de thermothérapie, c'est-à-dire le traitement par le chaud ou par le froid. Alors on sait que justement, par exemple, la chaleur a des effets. Ça augmente la circulation sanguine, ça détend les muscles, ça augmente l'élasticité des tissus, et ça lutte contre la douleur. Le froid a pour effet d'avoir des propriétés anesthésiantes et anti-inflammatoires, et ça augmente le tonus musculaire.
Alors comment on fait son choix justement entre chaud et froid?
La chaleur, ça va être très bien par exemple dans les contractions musculaires, les courbatures, les spasmes, les crampes. Par exemple, si on a un torticolis, le fait d'utiliser une bouillotte, ça sera quelque chose qui sera tout à fait formidable. À l'inverse, la glace, c'est très bien en cas d'inflammation, d'entorse, de déchirure, de contusion ou d'ecchymose.
Alors, du côté pratique, de chez pratique, on utilise quoi comme objet? Comment justement on va chercher ce chaud ou ce froid, docteur Sen?
Alors, à la maison, ce qu'on fait, c'est que par exemple, on peut essayer de prendre une douche très chaude ou utiliser une bouillotte. Avec la bouillotte, c'est formidable, on l'applique et là, ça va diffuser une chaleur. On peut utiliser quelquefois des compresses imprégnées d'eau chaude également. Et puis, si on va chez des kinésithérapeutes, ils utilisent quelquefois des lampes infrarouges qui diffusent une chaleur. Et puis, pour le froid, le mieux, c'est d'utiliser de la glace ou des glaçons qu'on va mettre dans un sac plastique ou un chiffon. Et on va poser ça sur la peau en l'ayant protégé préalablement avec un petit mouchoir. On peut utiliser aussi des petits pois congelés. Ça, c'est formidable, ça prend absolument la forme de l'articulation que l'on veut, par exemple, refroidir. Donc, tout cela par des séances qui durent 15 à 20 minutes, pas plus, n'est pas utile. Et puis, toujours consulter son médecin avant de reprendre pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication. Et puis, je voulais vous parler d'une petite nouveauté, c'est la cryothérapie corps entier. Alors, qu'est-ce qu'on fait quelquefois? Eh bien, il faut savoir que c'est une nouvelle technique qui existe et où on plonge le corps entier à moins 110 degrés, moins 120 degrés. Je l'ai fait, c'est formidable. Et là, ça permet d'améliorer la récupération physique. Alors, ça dure pas longtemps, 2 à 3 minutes, on peut sortir, bien évidemment, si on est congelé. Et la chose, c'est de savoir que c'est utile à la fois pour la récupération sportive, pour certaines blessures, mais aussi dans certaines maladies. Ça a été montré, par exemple, dans des maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, comme la fibromyalgie. Eh bien, on a vu quelques améliorations. Alors voilà, on peut dire aujourd'hui, vive la thermothérapie.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. On vous retrouve bientôt dans Priorité Santé. Et l'émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, la fabrique, la réalise. Demain, question psy, émission spéciale, colère, phobie, manque de confiance en soi. On attend vos questions. 33 1 84 22 75 75 et vos messages sur notre page Facebook. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les transporteurs professionnels, profitez d'une assurance dans plus de 14 pays pour l'acheminement de vos marchandises. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.